cette conception de la ville reposant sur des zones homogènes. Nous voulons absolument remettre une activité économique au centre de nos agglomérations. Et je souhaite également...
Comme des galeries marchandes, par exemple ?
Ah, sans doute pas. C'est-à-dire qu'il est évident que si nous voulons développer des centres-villes piétonniers, je dirais c'est également en soulignant que le fait que les rues piétonnes ne doivent pas être des rues vouées au commerce de grandes marques ni au commerce pour le tourisme, mais des rues vouées au commerce de proximité. Je ne serai pas le ministre des méga-centres commerciaux, je ne serai pas le ministre des supermarchés du cinéma, ni des grands projets urbains internationaux. Je ne serai pas le ministre des complexes d'affaires, des hôtels de luxe ou des boutiques de luxe. J'entends remettre avec l'altergouvernement en cause les logiques économiques dominantes, celles des soi-disant économies d'échelle, celles des calculs à court terme, qui sont aussi des calculs à courte vue. Et nous allons donner des instructions très strictes pour en finir avec cet urbanisme de coercition, avec ces bancs conçus pour empêcher les SDF de s'allonger ou les amoureux de s'épancher, avec le barricadement excessif des immeubles, avec le fond sonore conçu pour faire fuir les jeunes ou avec la vidéosurveillance. Nous allons véritablement rendre à la ville sa fonction première qui est celle d'habiter et non pas de spéculer. Et dire qu'on va être l'alter-gouvernement du ralentissement de la ville, c'est ne jamais oublier que la vitesse est toujours un facteur d'inégalité sociale. C'est-à-dire chaque fois que la société accélère, c'est toujours au détriment des plus faibles et des plus pauvres. Nous avons mis depuis un siècle et demi toute notre intelligence à inventer des prothèses techniques à accélérer et nous sommes arrivés à cette dictature des temps courts sur les temps longs et des temps rapides sur les temps lents. Il faut rendre à nos villes cette dimension humaine qui doit être la première dimension. De la même façon, si nous allons prendre des mesures pour développer ce qu'on appelle le droit à la nuit, c'est-à-dire cette diminution, voire l'extinction de l'éclairage public à partir d'un certain nombre d'heures, ce n'est pas simplement pour économiser de l'énergie, mais c'est pour rendre à la nuit son épaisseur, sa dimension humaine qui nous est indispensable pour créer du lien social. Nous ne serons pas l'alter-gouvernement du toujours plus, mais nous sommes du côté de la fabrique de l'humain. On ne s'en sortira pas si nous restons simplement des forçats du travail et de la consommation. Mais notre discours n'est pas de dire aux pauvres « vous allez souffrir ». Notre discours, c'est pas de promettre des larmes et du sang. Notre discours, c'est au contraire de dire « parce qu'aujourd'hui, nous avons atteint les capacités maximales de la planète, eh bien, on ne peut plus repousser la grande question historique qu'est la question du partage ». Donc nous allons redevenir des partageux. Mais nous allons redevenir des partageux, non pas, j'allais dire, de façon tristounette et dans la grisaille. Nous allons redevenir partageux pour inventer ce socialisme gourmand, pour inventer ce socialisme de la décroissance.
Et là, normalement, il y a un torrent d'applaudissements.
C'est fou l'indélire.
Ouais, c'est bien. Écoute, il est parfait pour les meetings, là, maintenant. C'est impressionnant. Bravo, Paul. Mais que dites-vous aux nombreux détracteurs, en particulier de ceux qui ont rejoint le gouvernement en exil mené par Laurence Parisot actuellement en Suisse, qui disent que, dans la même veine que l'annonce qui a été faite par la ministre de l'écologie Geneviève Azan de sortie du nucléaire, c'est le retour annoncé à l'âge de la bougie qui nous attend?
Je dirais qu'il faut laisser nos adversaires à leur fantasme. Ce qui est certain, c'est que la politique qui était menée par les gouvernements de droite et de la fausse gauche précédents et la politique proposée par ce gouvernement soi-disant en exil conduite par les milieux d'affaires internationaux ne peuvent que nous conduire dans le mur. Mais d'ailleurs, nous sommes déjà dans le mur. Le problème, c'est que notre planète ne souffre pas de trop d'humains. Elle souffre d'une injustice sociale. Je veux dire, nous ne manquons pas d'aliments. Il y a, comme le dit notre ami Jean Ziegler, un scandale politique qui fait qu'on choisit de produire ce qui n'est pas utile au plus grand nombre. Et je crois que face aujourd'hui à la situation dramatique que nous a laissée la droite et la fausse gauche, Nous avons deux raisons d'être optimistes. La première, paradoxalement, c'est la crise écologique.